Les films qui ont changé nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, bienvenue dans la sixième émission de cette série d'été consacrée aux 10 films qui ont changé nos regards. Alors le principe de l'émission est simple, vous le connaissez maintenant, un invité qui vient parler d'un film. Quel film ? Eh bien le 23 mai 1993, un film est entré dans l'histoire, car c'était la première fois que sa réalisatrice obtenait la Palme d'Or au Festival de Cannes. Une palme, certes, ex aequo avec Adieu ma concubine de Shane Gage, mais une palme quand même. Une femme palme d'or. Il faudra attendre 28 ans pour que cela se reproduise. C'était le mois dernier avec Julia Ducournau pour Titane. J'en reviens donc au film du jour, couronné en 93. Il a tellement frappé les esprits qu'une seule image suffit à le décrire. Un piano abandonné sur une plage. Oui, bien sûr, c'est La leçon de piano réalisée par Jane Campion. Depuis 8 jours, des réalisatrices et des réalisateurs se sont succédés à ce micro. Aujourd'hui, c'est une comédienne que je suis enchantée d'accueillir. Ce sera la seule comédienne de cette série, d'ailleurs. Mais franchement, la décrire comme comédienne, ce n'est pas lui rendre justice. Sa place dans le cinéma français, européen et mondial font d'elle une force qui rayonne sur tous les projets qu'elle accepte et qu'elle rend d'ailleurs aussitôt viable, visible et attendue. Bonjour Isabelle Huppert.
Bonjour.
Alors je ne vais pas résumer votre carrière, on est à 100 films environ, parce que ça occuperait tout le temps de l'émission, je pense. Alors on va juste rappeler des moments clés. On vous aperçoit la première fois dans Faustine et le bel été de Nina Companès, la même année dans César et Rosalie de Claude Sautet, et puis ce sera Blié, Tavernier qui vous feront tourner. La Dentelière de Claude Goretta vous révèle en 77, mais c'est en 78 que vous remportez votre premier prix d'interprétation à Cannes, avec Violette Nozière de Claude Chabrol. Votre carrière explose et devant vous, la voie sera royale. Vous tournerez dans tous les continents, avec Piala, Deville, Blié à nouveau, Godard, Tavernier, Jacot, Téchiné, Vajda, Cimino, Lozé, Doyon, Werner Schroeter, Allartler, les frères Taviani, Raoul Ruiz, Assayas, Ozon, à nouveau et souvent avec Chabrol, Christophe Honoré, Claire Denis, Riti Pan, Ursula Mayer, Mia Hansen-Love, Marco Bellocchio, Hong Sang-soo, Brienne Mendoza, Wes Anderson, David Russell, Anne Fontaine, Serge Boson, Jean-Paul Salomé, et souvent aussi, bien sûr, avec Michael Haneke, dont la pianiste vous vaudra votre second prix d'interprétation cannois en 2001. On peut aussi s'amuser à lister vos prix. 2 Coupes Volpi de la meilleure actrice à Venise, les 2 fois dans un Chabrol, 2 prix du cinéma européen de la meilleure actrice, un Lola en Allemagne, un BAFTA en Angleterre, un Donatello en Italie, et puis tous les prix que vous emporterez grâce à votre interprétation dans le film de Paul Verhoeven, Elle, un Golden Globe, un Spirit Award, un New York Film Circle Award, une nomination aux Oscars, et le César de la meilleure actrice, votre 2e après celui remporté pour la cérémonie. Sans oublier le théâtre, vous n'avez jamais cessé de vous produire. Vous avez remporté un Molière d'honneur et le prix Europe pour le théâtre. Vous étiez le mois dernier à Avignon pour jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes, La Cerisaie de Tchekhov, sous la direction de Thiago Rodriguez. Et vous reprendrez cette pièce en tournée et la jouerez à Paris, à l'Odéon, en janvier prochain. Malgré le confinement, vous n'avez jamais cessé de tourner. Et 5 films dans lesquels vous avez joué attendent une date de sortie. Les Promesses de Thomas Krutoff, Mrs. Harris Goes to Paris de Anthony Fabian, L'Ombre du Caravage de Michele Placido, John Vera de Laurent Larivière et Loose de Flora Lao. On a utilisé tous les superlatifs pour décrire votre jeu, votre façon d'habiter vos personnages. Vous dites que jouer est quelque chose de très physique. C'est clairement le cas pour le personnage d'Ada, qu'incarne Holly Hunter dans La leçon de piano, puisqu'elle ne parle pas. Elle ne s'exprime que par son corps et surtout ses doigts lorsqu'elle joue au piano. Alors on connaît le lien que vous avez avec ce film. Vous avez rencontré Jane Campion. Est-ce que c'était pour envisager le rôle de Ada, justement ?
Oui, j'avais rencontré Jane Campion en 1990, au moment où elle préparait le film. Je jouais moi-même au Théâtre de l'Odéon, mesure pour mesure, mis en scène par Peter Zadek. Et j'ai un souvenir très précis de cette rencontre. Jane Campion était venue me voir un peu avant que je rentre en scène. Et elle était restée longtemps dans ma loge pour me parler de ce projet, pendant que je me préparais. Donc c'était une rencontre un peu insolite. C'est pas fréquent de rencontrer un metteur en scène alors qu'on s'apprête à rentrer en scène quelques minutes plus tard. J'étais très détendue.
Mais c'est très perturbant quand même pour vous, non ? D'habitude, ils viennent après une représentation, pas avant.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'était passé comme ça. Était-ce parce qu'elle devait repartir assez rapidement après ? J'oublie un peu, parce que c'était quand même il y a un peu assez longtemps, si j'avais donc vu les 2 précédents films qui avaient déjà marqué les esprits de Jane Campion, mm-hmm. qui étaient Sweetie et Un ange à ma table, mm-hmm. qui étaient des films vraiment extraordinaire, un ange à ma table d'après le roman de Janet Frame. Et voilà, peut-être que je recevais Jane Campion consciente de ces films ou pas d'ailleurs. Ouais, ouais. Puis après, elle est repartie, puis après, nous ne nous sommes plus rencontrés. Et puis plus tard, j'ai vu le film avec Holly Hunter. Je me suis toujours demandé si peut-être j'avais pas réagi assez, comment dirais-je, avec assez d'enthousiasme ou d'intérêt à ce qu'elle me racontait. En même temps, j'étais en train de me préparer moi-même pour rentrer en scène.
Mais oui, c'est injuste.
Donc voilà, je me dis, est-ce que c'était finalement le meilleur endroit pour une rencontre ? Mais elle était très charmante, très sympathique. Et je me suis dit, quand j'ai vu le film, que évidemment, j'aurais dû me rouler à ses pieds pour lui dire de me faire des essais. Mais en même temps, quand j'ai vu le film avec Holly Hunter, je l'ai trouvé tellement extraordinaire. Et le revoyant il y a très peu de temps pour votre émission, voilà, il y a des plans d'elle que j'ai jamais vus au cinéma. Il y a des expressions d'Holly Hunter. Ce qui est bizarre, c'est que c'est très curieux comment la mémoire est fugace aussi, oui. Qu'on entretient avec les films. On se souvient les avoir aimés. Ça m'a beaucoup frappé là quand j'ai revu la leçon de piano là il y a quelques jours. On se souvient les avoir aimés. On se souvient que les films ont fait sur vous une très forte impression. Et en fait, j'avais oublié les deux moments vraiment. Enfin, je vais tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on est là pour parler de la leçon de piano.
Ouais.
Deux moments qui m'avaient particulièrement frappé, mais que quand vous m'avez reparlé de la leçon de piano, au fond, j'ai été inscrit dans un tout, mais pas dans le détail de ces deux plans-là. Et c'était le plan où elle s'effondre comme un. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, j'avais toujours pensé que c'était comme un. Elle était comme un nénuphar. Parce qu'il y a sa robe qui forme comme une corolle des nénuphars.
Oui.
Quand elle s'effondre après le choc du doigt coupé.
Oui.
J'avais d'ailleurs oublié aussi à quel point le film est d'une violence inimaginable.
Oui.
Et puis ce gros plan extraordinaire avant qu'elle s'effondre, comme cette image comme ça, un peu aquatique. Ce gros plan sur son visage où elle est aspergée de poussière ou de d'eau. Et il y a une expression qui explique tous les suffrages qu'elle a reçus pour ce film. J'ai jamais vu ça au cinéma. Quelque chose de l'ordre de la douleur, de la souffrance, du malaise, comme quelqu'un qui a reçu un choc indescriptible. C'est ce qu'elle traduit là sur son visage est vraiment vraiment extraordinaire.
Et vous avez vraiment l'impression qu'avec tous les films dans lesquels vous avez prêté votre visage, vous n'avez jamais eu cette expression, vous-même.
Oh, j'en ai eu d'autres, sûrement, mais celle-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée la chercher, cette expression vraiment, bon, elle va s'évanouir quelques minutes plus tard,
oui.
Enfin quelques secondes plus tard,
oui.
Mais comment elle a pu, et puis comment ça a pu être capté par la caméra de Jane Campion, qui capte bien des moments comme ça sur son visage tout au long du film. Quand je revoyais le film, je me disais, voilà, c'est comme ça qu'une actrice a envie d'être filmée, toujours avec des plans qui durent. Il y a quelque chose de sa caméra qui est vraiment la manière dont elle enregistre les expressions sur le visage d'Holly Hunter, qui sont évidemment décuplées par le fait qu'elle ne parle pas. Donc tout se passe dans le regard et sur le visage, puisqu'il n'y a pas d'accès au langage.
Alors on va commencer par un extrait qui est la première fois qu'on voit vraiment le visage, ou en tout cas les expressions de Holly Hunter quand elle a quelque chose à dire puisqu'elle ne parle pas. C'est au tout début du film, au moment où elle rencontre son mari.
What's in this one?
Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Il est là, il est sur la plage et il découvre sa femme et les objets qu'elle a apportés.
You're small. I never thought you'd be
vous êtes petite, je ne vous voyais pas si petite.
And this one?
Et cette caisse-là, c'est quoi?
Very large.
Elle est très grande.
What's in it, then? Bedstead?
C'est quoi? C'est un lit?
It's my mother's
non,
piano.
C'est le piano de ma mère.
Baines, tell them to carry in pairs.
Baines, dis-leur d'amener tout par paires. Qu'ils prennent les boîtes.
And,
et qu'ils prennent les valises aussi.
What do you think?
Comment tu la trouves? Demande-t-il à Harvey Keitel.
She looks tired.
Elle a l'air fatiguée.
She's stunted.
Elle est chétive en tout cas. Non, non, ça, le piano, il ne peut pas venir maintenant. Mais si, elle le veut. Elle veut que vous la meniez. Oui, moi aussi. Mais on n'est pas assez nombreux et c'est trop lourd. C'est trop lourd. Alors, elle écrit sur un papier qu'elle tend. Comment ça? Vous ne voulez pas votre vaisselle? Vous préférez le piano? Oui, c'est mon piano. Je le veux.
We can't leave the piano.
Vous pouvez pas le laisser là, dit sa petite fille.
Let's not discuss this anymore.
Écoutez, on va pas en parler plus longtemps.
I'm very pleased that you arrived.
Je suis ravie que vous soyez là. Mais ma mère veut être sûre que vous viendrez le chercher après.
Could I apologize for the delay?
Écoutez, je suis désolée d'être arrivée en retard. Non, elle veut en être sûre. Et là derrière, vous avez Maury qui dit « Ah, couille sèche, s'énerve ». Préparez-vous pour le voyage, il est difficile. Et c'est là qu'arrive ce plan magnifique du piano. En fait, c'est pas un piano qu'on voit, c'est une caisse posée sur des roues. Mais maintenant qu'on sait que c'est un piano, ça nous arrache le cœur. Isabelle, on imagine la difficulté qu'il y a eu de monter un travelling dans cette forêt qu'ils vont traverser dans les plans suivants. Quand vous tourniez dans le film de Briante Mendoza, ça devait être du même genre, non?
Oui, c'est drôle que vous l'évoquiez parce que fugitivement, j'y ai pensé au moment où cet extrait a commencé.
Mais cet extrait m'y a fait penser. Je vous voyais marcher dans la jungle.
Oui, oui.
Et je me disais, mais elle a connu ça. Elle ne portait pas les mêmes robes en crinoline. Mais...
Non, bien sûr. Mais je crois que j'y ai pensé aussi quand vous avez décrit le rôle d'Oliander comme étant un rôle essentiellement physique. J'ai pensé à ce genre de rôle, oui, qui se définissent uniquement par leur physicalité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Si, et c'était vraiment le cas pour le film de Briante et Mendoza, avec évidemment un peu de sentiment, de romantisme en moins. C'était quand même pas tout à fait le même sujet.
Non.
Mais c'est vrai qu'il y avait des au fond, je ne sais pas si je serais prête à le refaire. En tous les cas, je serais certainement pas prête à le faire, sachant comment ça allait se dérouler, parce que c'était assez homérique. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le film de Jane Campion, c'est que elle montre des situations qui dépassent un peu l'entendement, la manière dont cette femme et cette petite fille débarquent sur cette plage.
On ne sait même pas comment elles sont arrivées.
Oui, mais en même temps, elle nous le fait accepter. Enfin, il n'y a pas d'explication. Et tout a l'air assez, complètement improbable et en même temps assez simple et évident. On ne sait pas comment elles sont arrivées, on ne sait pas d'où elles viennent. Ça, c'est magnifique aussi. Bon, le film est un peu la saveur et la couleur d'une fable aussi, avec l'absence d'explication que ça suppose, évidemment l'absence de psychologie. Mais justement, dans sa manière de filmer, la manière dont elle fait accepter ça, c'est vraiment... extraordinaire, parce qu'on ressent quand même la fatigue, les intempéries, et en même temps, on se pose pas trop de questions non plus. Voilà, pas plus que j'imagine l'héroïne ne s'en pose en débarquant sur cette plage avec sa petite fille.
Oui, mais c'est le fameux suspension of disbelief. Enfin, on est au cinéma, donc on croit à ce qu'on voit a priori.
Oui, bien sûr, mais en même temps, on se dit pas toutes les 5 secondes, mais qu'est-ce qu'elle. On le croit. Enfin, c'est tellement improbable qu'on n'arrive pas à le croire. Elle fait accepter une situation particulièrement difficile à accepter, à comprendre.
Alors, quand il la voit pour la première fois, son mari dit à Harvey Keitel : je la voyais pas si petite. Alors, il paraît que c'est ce que Jane Campion s'est dit quand elle a rencontré Holly Hunter, et c'est pour ça qu'elle a rajouté ça sur le tournage.
Ah, c'est mignon.
Est-ce que vous, votre taille, votre poids, votre apparence, qui est évidemment différente dans la vie de ce qu'on voit au cinéma, puisque le cinéma exagère tout dans tous les sens, est-ce que ça vous a déjà fait avoir ou perdre un rôle? Est-ce que le rapport qu'on a avec quelqu'un qui vous a toujours vu à l'écran, qui d'un seul coup vous rencontre dans la vie, est-ce que c'est déstabilisant?
Je crois pas. De toute façon, le cinéma, c'est plus fait pour les gens petits que pour les gens très grands, je trouve.
Oui, on rentre mieux dans le cadre.
C'est plus facile à filmer. Et je crois qu'effectivement, Holly Hunter est toute petite et c'est ça qui est magnifique aussi, cette force qui se dégage de ce petit corps. Mais non, j'ai pas du tout le sentiment que c'était un handicap ou non, pas du tout. Non. On a le physique qu'on a aussi. Enfin.
Oui, mais vous avez appris à vous en servir aussi. Vous avez, je veux dire, sans avoir fait d'énormes transformations à l'américaine, genre je prends 100 kilos, je perds 100 kilos. Enfin, vous, on ne voit pas comment vous perdriez 100 kilos, mais à part les cheveux. Enfin, comment, et pourtant, quand on regarde les films de vous, le visage est très distinctif entre un Piala et un Chabrol, par exemple. Donc,
oui.
comment est-ce que vous, ça c'est quelque chose qui vient de vous, de votre préparation. Est-ce que c'est une image physique que vous faites vous-même de votre personnage ?
D'abord, là, le travail sur le corps, je trouve que c'est encore plus vrai au théâtre qu'au cinéma, je trouve.
Ouais.
Le cinéma se charge, par le média qu'il est lui-même, de morceler le corps et de le, et donc du coup de le comment dirais-je, pas de la de le travestir, mais le cinéma, on présente un corps soit en gros plan, soit en plan américain, soit en plan général, donc le corps il est découpé déjà par le principe même du cinéma.
Ouais.
Alors que le théâtre, le corps, on lui demande finalement plus au théâtre qu'au cinéma. Et pour répondre à votre question, non, je crois que c'est un travail mental plutôt que physique. C'est une manière de penser le rôle. C'est de la pensée quand même.
Oui.
Jouer, c'est penser.
Oui, mais aussi. La pensée c'est conduit à avoir les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux plus auburn, les cheveux plus blonds, etc.
Oui, ben là, ça, ce sont des accessoires qui viennent au service de la pensée.
Oui.
Mais au départ, il y a quand même la pensée et comment on se relie par la pensée, par le mental, à différents personnages. Et évidemment, on accentue telle ou telle option que l'on prend vis-à-vis d'un personnage par le costume, par les cheveux, par le, voilà, il y a plein de choses qui viennent renforcer ça. Mais pas non plus tant que ça, justement, puisque il suffit d'un... J'avais fait un travail comme ça, très intéressant, avec une photographe plasticienne qui s'appelle Ronnie Horn,
ouais.
Je sais pas, qui a, dont le principe, c'est une photographe, comment, je sais plus comment on appelle ça, un peu comme Philip Glass fait de la musique répétitive.
D'accord.
Ronnie Horn, elle fait de la photo répétitive, c'est-à-dire qu'elle photographie son sujet des vingtaines ou centaines de fois.
Ouais.
Et donc, elle a voulu faire ce travail avec moi. Et le principe consistait à m'enfermer dans un studio pendant 2 jours, le temps qu'il fallait pour arriver à cet exercice. Et elle a réuni plusieurs titres de mes films et elle me demandait tous les matins de choisir un titre de mes films. Elle mettait tout ça dans des petits morceaux de papier dans un chapeau, je choisissais.
Ouais.
Et puis elle me demandait pendant plusieurs heures de retrouver le sentiment qui m'avait animé pendant ce film. Et alors au début, ça m'a paru abstrait quelques secondes et en fait, ça ne l'était pas du tout. Je tirais la dentelière et je retrouvais pendant, par exemple, ou Madame Bovary ou Merci pour le chocolat, et je retrouvais pendant plusieurs heures l'expression, pas plusieurs expressions, l'expression principale qui m'avait fait jouer ce rôle. Et à l'arrivée, elle avait une centaine de photos, 120 photos, avec des expressions différentes à chaque fois.
Mais on veut les voir, ces photos.
Mais on peut les voir.
Ah oui,
elles ont été exposées à Londres, elles ont été exposées dans sa galerie. Je crois que c'est Matthew Marks Gallery à New York, mais peut-être je me trompe, peut-être c'est un autre nom de galerie.
On va chercher.
Voilà.
On va chercher ça. Alors on va revenir à la leçon de piano, oui. Si vous voulez bien. Et Jane Campion nous raconte le film Un triangle et un piano.
La leçon de piano, c'est une relation triangulaire, mais il y a un quatrième personnage qui est le piano, et à mon avis, c'est une métaphore assez explicite de la civilisation. Le personnage principal connaît un certain nombre d'incidents et choisit de s'enfermer dans le mutisme. Moi, j'ai essayé de dépeindre cette femme qui est peut-être en partie moi-même d'ailleurs, mais moi-même j'ai une relation plus raisonnable avec le monde qu'elle, mais cette femme, une partie de cette femme est en moi aussi. Et elle n'a rien de raisonnable, elle est furieuse en réalité contre l'injustice, contre l'exploitation qu'elle ressentait, et elle a donc décidé d'arrêter tout contact verbal avec le monde. Et la seule relation qu'elle ait, c'est une relation avec le piano. Et elle a avec ce piano une communication particulièrement belle. Donc je travaillais sur ces différentes forces, et puis il y a cet homme prétendument civilisé qui cherche à maîtriser les choses, c'est ça sa conception de la relation, c'est la maîtrise. Et puis il y a aussi cet homme primitif, un peu comme une bête, qui était fasciné par la créature. Il n'en avait pas peur et il voulait trouver un moyen. En réalité, il était très attiré par la passion qu'avait la femme pour cet instrument, pour ce piano. Et moi, j'ai toujours pensé que la chose la plus fascinante dans le monde, c'est l'attention, la concentration que l'on peut porter à un objet. Moi, je trouve ça très érotique. Et cet homme-là voulait qu'elle ne porte plus l'attention qu'elle portait au piano, mais à lui-même. Mais ce transfert était impossible. Du moins, pas de la sorte. Et c'est ainsi que la relation a démarré.
Un piano devenu objet d'érotisme, en fait, l'homme a envie qu'elle le désire comme elle désire jouer au piano. Est-ce que vous avez déjà eu ce rapport dans un film avec un objet ?
Avec un objet, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais en écoutant Jane Campion, je me dis, voilà, elle en parle de cette manière-là, mais le piano, c'est la... C'est la musique aussi, donc c'est pas que le rapport avec, c'est pas un rapport avec un moulin à café ou un fer à repasser. C'est, c'est une obsession sur voilà ce qui lui fait jouer de la musique et c'est son refuge, c'est sa douleur, c'est.
C'est son refus de parler aussi. C'est devenu sa voix puisqu'elle a décidé que dans cette société dans laquelle elle est une mère célibataire, donc elle est très très mal considérée, et en plus elle est une femme dans une ère victorienne, donc elle cumule les handicaps. Sa seule manière de prendre place dans une société qui l'oppresse, c'est comme un défi quoi. Elle refuse de parler. Donc le piano devient sa voix.
Oui, oui, oui. Mais encore une fois. La musique, c'est aussi tout ce qu'on peut exprimer au-delà des mots aussi. Donc il y a au fond un parallèle entre, j'imagine, son impossibilité à parler et la joie de la musique, là où la musique l'emmène. C'est Claude Régis qui me disait tout le temps, la musique est non sensique. J'avais toujours aimé cette expression. C'est-à-dire, la musique ne fait pas sens. La musique est au-delà des mots. Donc, c'est pas un hasard non plus. Et ayant refusé de parler, elle se réfugie dans ce qui ne fait pas sens. Pas de la même manière que les mots.
C'est tentant, un rôle de muette ?
Ah oui, c'est tentant. Ah oui, ah oui. Un rôle de muette, un rôle de... Oui, un rôle... Enfin, j'allais... Non, pas forcément tous les handicaps, mais...
Non, mais c'était ça ma question. Est-ce que c'est tentant de perdre un sens au cinéma ? Est-ce que du coup, ça doit modifier la façon de jouer ? Donc ça peut être vraiment intéressant.
Il n'y en a que deux qui sont vraiment visuels, si je puis dire. C'est la cécité et la... Comment on appelle ça, le fait d'être muet ?
Je ne sais pas moi non plus.
Ouais, enfin bref, de ne pas parler et de ne pas voir. Ouais. De ne pas entendre... C'est difficile de traduire la surdité au cinéma.
Ouais.
Mais alors, ce qui est beau aussi dans ce qu'elle fait Holly Hunter, c'est la manière dont elle utilise le langage des signes.
Absolument.
Elle fait assez extraordinaire.
Qu'elle a inventé, c'est pas un vrai langage.
C'est Holly Hunter qui l'a inventé ?
Oui, absolument. Elle a interprété un ancien langage qu'elle a trouvé en Écosse.
Ah oui.
Et elle a inventé son propre langage qu'elle a du coup appris à Ada Paquin. Mais c'est pas vraiment un langage des signes. D'accord. C'est magnifique comment elle le fait.
Alors, elle a une gestuelle qui est absolument fascinante. Et autre chose, c'est la manière dont elle écrit les petits mots dans son petit carnet. Elle a une manière de tourner le poignet comme ça. Et avec un espèce de geste un peu étrange. Enfin, ça, c'est absolument génial. C'est magnifique.
Mais elle a une autorité réelle dans tout ce qu'elle fait, Holly Hunter.
Ah oui, oui, absolument. Surtout quand elle a tout ce qu'il faut. Elle a de l'autorité quand elle n'est pas contente. Mm-hmm. Elle sait traduire la violence, elle sait traduire la douceur, elle sait traduire le charme, elle sait traduire tout ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Dans tout ce qui se passe dans la naissance de l'amour avec Hervé Kettel. Oui, franchement, elle sait... Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut. Il y avait tellement tout ce qu'il fallait que le film gagne la Palme d'Or. Mais c'était tellement inscrit d'avance qu'elle a failli ne pas l'avoir.
Comment avez-vous ressenti cette pression autour de Jane Campion ?
Moi, j'ai senti aucune pression. Au contraire, je suis allé voir la leçon de piano décidé à ne pas l'aimer. Parce qu'on m'avait tellement rebattu les oreilles que c'était la Palme d'Or. Que, en fait, j'aurais été ravi de ne pas lui donner. Mais il se trouve que c'est un film admirable et c'est la naissance d'un grand cinéaste.
Il y a un grand cinéaste, oui, mal, au lieu de dire une grande cinéaste. Isabelle, évidemment, ça me renvoie à votre présidence de Cannes, quand la rumeur donnait un prophète Palme d'Or et que ça a été le ruban blanc. Est-ce que vous aussi, comme Louis Mal, vous avez été très, très ennuyé par cette pression qui montait?
Pas du tout. Non, pas du tout. Mais j'étais deux fois. Non, ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec les conditions qui entourent les jurés pendant cette aventure de Cannes, et je crois que tout le monde le traverse de la même manière pour avoir parfois partagé ses impressions avec d'autres jurés. J'étais deux fois, j'étais membre,
oui, une fois jury, une fois membre et une fois présidente. Ouais.
Mais on est particulièrement, je trouve, imperméable à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on lit. On est beaucoup plus concentré par ce qui se passe. C'est un entre-soi entre nous, entre les membres du jury. Ça m'a beaucoup frappé. Je m'attendais pas à ça, d'ailleurs. Je pensais que, oui, qu'on serait plus réceptif à ce qu'on pouvait entendre, et c'était pas du tout le cas.
Mais même les journaux le matin, vous vous jetiez pas sur Libération, qui était le grand journal de cinéma à l'époque, pour savoir ce qu'ils en pensaient?
Oui, mais enfin, Libération, ils ont pas toujours raison, de toute façon.
Et donc, vraiment, la rumeur du prophète ne montait pas jusqu'à vos oreilles, sincèrement. Ça paraît fou, parce que vraiment, c'était vraiment comme si. L'année de la leçon de piano et de Shane Kaige. Vraiment, tout le monde disait, c'est la leçon, et tout le monde disait, c'est un prophète.
Voilà. Oui, mais...
Puis
vint le ruban blanc, voilà.
Et... Sublime, sublime.
Et, oui, il faut bien le dire, oui.
Voilà. Oui. Alors, le Festival de Cannes a joué un rôle important dans votre carrière. Évidemment, je le disais tout à l'heure avec Violette Nozière, pour Jane Campion, c'était absolument la même chose.
Look, I wouldn't have a career at all.
Écoutez, je n'aurais pas de carrière. Je n'aurais pas de carrière. Je serais morte, je crois, sans le Festival de Cannes.
Vraiment?
Yeah, my films were unusual.
Parce que mes films étaient étranges, sortaient de l'ordinaire.
So I came with my short films.
Et je suis d'abord arrivée, j'ai débarqué à Cannes avec mes courts-métrages.
I've had almost all sorts of experience you can have here. Cried when the projection went wrong.
J'ai connu des expériences incroyables. J'ai eu des scènes de larmes lorsque la projection se passait mal.
I've been booed with Sweetie.
On m'a hué lorsque on a visionné Sweetie.
And I've won the Palme d'Or.
Et puis au final, on m'a donné la Palme d'Or. Donc toutes sortes d'expériences.
Jane Campion au micro de Patrick Cohen. Isabelle Huppert.
Elle a une très belle voix.
Elle a une très très belle voix, oui. Absolument.
Oui, j'aime beaucoup sa voix.
Est-ce que pour vous aussi, ça a été quelque chose de déterminant, ce prix à Cannes? Le premier,
oui,
comme
même,
le deuxième,
le premier,
d'ailleurs.
Oui, déterminant, je ne sais pas par rapport à quoi.
Accélérateur,
je ne dirais pas, non. Non, je ne crois pas que ça soit accélérateur. C'est pas parce qu'on a qu'un travail en soi est récompensé, ou que tout d'un coup il y a une attention particulière, que ça modifie fondamentalement le cours des choses, je trouve, puisque après il s'agit d'innover plutôt que de répéter, d'innover c'est toujours avec l'incertitude qu'on peut imaginer, les difficultés. Je ne crois pas que ça facilite forcément les choses. Ça fait juste très 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 plaisir sur le moment.
Oui, mais on peut aussi se dire que ça vous rend incontournable sur la carte du monde du cinéma. Ça peut éveiller le désir des autres.
Oui, bien sûr, mais faut pas éveiller le désir des autres. Faut éveiller le désir d'un autre à nouveau pour un rôle en particulier, et ça c'est beaucoup plus difficile. Éveiller le désir de plein d'autres, comme en général, c'est pas très difficile, mais de l'éveiller pour une chose particulière qui va tout d'un coup vous montrer différemment, vous révéler différemment, ça c'est beaucoup beaucoup plus difficile, et il y en a, ça se passe à chaque fois. C'est pas qu'on hésite entre mille options, non, il y a à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a qu'une chose possible qui se présente, pas
bien.
Plusieurs.
À l'inverse, on peut se dire, après avoir eu un prix à Cannes, on peut se dire, bon, j'ai monté cette marche-là, maintenant, je ne peux pas prendre n'importe quoi après ça. Il y a aussi que ça, je pense que ça
eh bien, pas forcément,
change le choix, non ?
Non, je ne trouve pas, justement. Après la pianiste, qui est évidemment un rôle particulièrement
enfin particulièrement
extrême
voilà, oui. Qui était un rôle vraiment particulier. On peut être récompensé pour des films qui n'ont pas forcément cette intensité, cette particularité. Et au contraire, après j'ai beaucoup tourné après, mais je me suis dit qu'il fallait faire voilà, les choses le plus simplement possible, et sans évidemment chercher à répéter ce qui venait de se passer, parce que c'était impossible.
J'ai adoré ce que vous avez dit quand vous avez reçu votre deuxième prix d'interprétation, donc pour La Pianiste. Vous avez dit, il y a des rôles, on pense qu'ils vont tout vous prendre, et en fait, ils vous donnent tout. J'avais trouvé ça absolument magnifique. Oui, alors, ce qu'on ne sait jamais, c'est comment les gagnants de la Palme d'Or, comment ils vivent l'après Palme d'Or. Alors, je vais vous faire écouter une archive qui n'a rien de génial, parce qu'elle est vraiment mise en onde de manière terriblement larmoyante et insupportable. Mais moi, elle m'a beaucoup émue, parce que c'est l'après-Cannes de Jane Campion. On se souvient que quand elle a eu sa Palme d'Or, elle était rentrée chez elle parce qu'elle était fortement enceinte, qu'elle était sur le point d'accoucher, donc elle ne pouvait pas revenir chercher son prix. Et la présidente de la société qui fabrique les palmes, Caroline Scheffel, a fait faire une espèce de podcast où elle interroge énormément de palmés pour savoir comment ils ont vécu l'après-Cannes, l'après-Palme d'Or. Alors voici, encore une fois, mélodramatiquement, mais vraiment émouvant, l'après-Palme d'Or de Jane Campion.
J'ai connu mon plus gros succès en même temps que ma plus grande peine. Mon bébé est mort 10 jours après sa naissance. Ça a été un succès très compliqué à gérer. Et pendant 6 mois, j'ai été au plus bas. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai dû faire le deuil de mon bébé. Ce qui n'a aucune commune mesure avec un prix. Ça ne peut pas compenser. Ça me paraissait presque ridicule. Il faut surmonter ce qui est commun à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, un bébé ou un enfant trop tôt. J'ai mis longtemps, peut-être 10 ans, à réaliser que c'était bien de recevoir cette Palme d'Or. Que c'était quelque chose qui n'arrivait pas si facilement, que ça ne se reproduira peut-être pas. Gagner la Palme d'Or a été comme recevoir une couronne.
Une couronne.
C'est magnifique. Je me souvenais de ça, de ce drame qu'elle avait vécu après la Palme d'Or. Je me souvenais de ça.
Est-ce que vous avez l'impression de mettre une couronne sur la tête de Michael Haneke quand vous lui avez remis la Palme d'Or? Ça devait être un immense plaisir pour vous, quand même.
Oui, mais c'était...
C'est émouvant quand c'est quelqu'un avec qui vous travaillez autant.
Bien sûr. Mais le film le méritait amplement.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'était son film, encore plus que lui,
ouais,
à qui on remettait cette Palme d'Or.
Et vous pensez qu'il l'a pris comme ça ?
J'espère bien. Il sait très bien ce qu'il fait. Oui. Il est assez content de ce qu'il fait, généralement.
Alors, on va écouter un autre extrait du film. Dans ce moment-là du film, Harvey Keitel, Baines, a obtenu du mari de Holly Hunter qu'il lui vende le piano contre un lopinter. Une fois que le piano est à lui, il dit « Mais moi, je ne sais pas jouer, il faut absolument que Ada vienne m'apprendre. » Et c'est la scène où le mari explique à sa femme qu'il va devoir aller donner des cours à Baines.
« What on ?»
Mais sur quoi ?«
On the old piano. »
Bah, sur votre piano. C'est votre piano l'objet du troc. Elle dit que c'est son piano et elle ne veut pas qu'il le touche. Il ne sait pas lire, il est ignorant, il fait un muscle. Mais il va jouer mieux avec vous. Vous allez lui apprendre. Alors elle déchire tout ce qu'elle trouve. Apprends-lui à prendre soin. Elle écrit ses petits mots sur les papiers qu'elle lui tend. Et lui, furieux, ça peut pas continuer comme ça. Elle écrit, le piano est à moi. Tout le monde va faire des sacrifices dans cette famille, et vous aussi, vous allez lui apprendre. Et ça se termine chez Baines. Et il lui dit, Ada, il y a une façon pour que tu puisses récupérer ton piano. Tu le veux ? Tu veux le récupérer ? Elle répond pas. Elle a la main sur la bouche. Elle est pétrifiée.
I'd like us to make a deal.
J'aimerais qu'on fasse un deal tous les deux. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que tu joues. Si tu me laisses, tu peux récupérer ton piano. Et elle s'approche de la porte. Elle se retourne. Elle le regarde. Elle lui désigne ça, la robe. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Alors elle lui désigne un piano, les touches noires du piano. Noires comme sa robe. Ah, tu veux dire les touches noires? Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup moins de touches noires que de touches blanches. Mais d'accord, ok. Alors là, elle se reprend, se ressaisit et se remet à jouer. C'est le deal.
Ouais, c'est marrant parce que il y a des moments, ça me faisait penser, c'est très différent, mais sur la musique prise comme métaphore du sentiment amoureux,
ouais.
Parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans le film, ça me faisait penser même un peu à la pianiste.
Bien sûr.
Parce que c'est à travers la musique et cette, bon, mais bien sûr, il y a cette histoire du troc, il y a cette violence d'ailleurs de ce marchandage.
Ouais.
Mais au-delà de ça, très vite, il y a le sentiment amoureux qui va se développer à travers un piano quand même, donc à travers la musique. Et ça me faisait penser à la pianiste aussi.
Mais oui, bien sûr.
La manière de... Quand la pianiste écoute le jeune homme qui est joué par Benoît Benjamin pour la première fois, elle est à la fois séduite et effrayée par lui. Elle se rend bien compte que la manière dont il joue, c'est à la fois ce qui le rend séduisant, mais ce qui va la perdre aussi.
Oui.
Puisqu'il y a quelque chose qui immédiatement l'attire, mais il y a une superficialité dans la manière qu'il a de jouer, qui la renseigne sur l'être, sur l'essence même de son être, de ce qu'il est. Alors tout cet enchevêtrement entre la passion, la musique, voilà, ça me ramenait, qu'il y a dans le film de Jane Campion, me faisait penser à la pianiste.
Alors entre le piano et le désir, il n'y a qu'un pas que va franchir Joachim Lafosse, que j'ai rencontré à Cannes et qui m'a confié que c'était un de ses films de chevet.
Je n'ai jamais vécu la vision d'un film en me disant qu'une réalisatrice, ou enfin qu'une autrice, un auteur me fasse sentir le désir à ce point. Et cette chose pour moi très très importante, c'est que le désir, c'est pas la pulsion. C'est-à-dire, c'est fait de contraintes, d'impossibles, et surtout, ça tient, ça existe, ça ne prend naissance, ça ne prend forme qu'avec le langage. Alors c'est vaste le langage, mais pour Holly Hunter, dans le film, le langage, c'est la musique. Et elle a pas les mots. Donc là, ça commence bien. C'est-à-dire que ça paraît un peu cliché, mais tout d'un coup, je trouve que la métaphore, alors elle est utilisée de manière subtile, mais... Et puis petit à petit, il y a toutes ces contraintes et tout ce qui empêche le désir, tout ce qu'on pourrait ranger du côté du volontarisme, de la morale. Et ça vient faire obstacle. Mais Campion montre à travers le personnage de Holly Hunter, mais aussi de sa fille, que ça ne cédera pas et qu'il trouvera son chemin, quoi. Et que finalement, il n'y a que ça qu'on cherche. Alors, c'est quand même toute grande réalisatrice parce que je trouve que il y a une grammaire du cinéma, c'est-à-dire dans le large et dans le serré, dans l'intime comme dans le descriptif, c'est fou. Enfin, en tout cas, dans le film, il y a une aisance avec l'écriture qui me fascine. Enfin, ça fait partie des plus belles écritures de cinéma que j'ai pu voir. Il se fait chose très très étonnante, mais anecdotique, que j'ai découvert que c'était le film préféré de mon analyste, qui a pas pu s'empêcher de me le dire pendant une séance. C'était très troublant. Mais avant ça, c'était déjà mon film. Enfin, c'était déjà un film qui avait beaucoup compté. Et je dois dire que il y a peu de choses à jeter hein, chez Jane Campion, quand même. In the Cut, c'est un film que je trouve dément et qui est sous-estimé pour moi. Et par rapport à la sensualité, la manière dont elle fait vivre, je trouve ça fantastique. Harvey Keitel et Holly Hunter, c'est fou. Et même le mari violent, mais dont on perçoit bien qu'il est coincé dans sa violence et dans son obligation de faire ce mariage. C'est-à-dire, ce qu'elle fait voir, c'est pas seulement un personnage qui va avoir accès à son désir. C'est plus vaste que ça. C'est comment l'absence de désir vient tout tuer, vient amène à la guerre, en fait, et à la violence. Mais chaque fois que je le revois, chaque fois que j'y vois autre chose, c'est ce qui fait, enfin, c'est les grands films, évidemment, je sais que Jane Campion est très fan d'une psychanalyste néo-zélandaise qui est venue de la Nouvelle-Zélande dans les années 60, de sa ferme néo-zélandaise pour devenir psychanalyste, faire son analyse avec Lacan, et qui est Joyce McDougall. Joyce McDougall a surtout été une psychosomaticienne, c'est-à-dire justement quelqu'un qui s'est occupé des gens dont le langage c'était le corps, c'est-à-dire qui n'avait pas les mots et qui en gros ont des symptômes qui apparaissent et des problématiques psychosomatiques. Et bien je trouve qu'il y a une familiarité entre l'œuvre de Joyce McDougall et ce que Jane Campion fait avec le langage dans son film, c'est-à-dire que ce que je trouve, enfin, ce qui est magnifique, c'est qu'elle ne réduit pas le langage à la parole. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le langage des corps. Ça échange, ça se rencontre, même malgré le langage. Donc, cette espèce de chose simpliste qui serait de dire « Ok, le langage, c'est la parole », bah non, c'est plus vaste que ça, évidemment. Et le film le montre. Le film l'incarne, mais vraiment de manière... Parce qu'on découvre aussi qu'en fait, c'est aussi un choix. C'est pas qu'elle est victime de son absence de langage. Elle ne veut plus parler. Et ce qui est peut-être la meilleure manière de préserver son désir. Donc, enfin, c'est infini. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui ne distingue pas, qui sépare pas la nature de l'humain. Enfin, c'est un tout. Mais c'est Renoir. Ça, c'est Renoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. C'est un grand tout. Et ça fait partie du tout. Donc, le tout doit être dans le film. C'est-à-dire que le désir, c'est aussi la nature. La libido, c'est aussi la nature. Le corps, c'est aussi les arbres. C'est aussi la plage. Et ça, bah, de nouveau, c'est très rare. Même moi, j'y suis pas. Je suis sur le corps de mes personnages, mais je ne suis pas encore à la nature. J'ai pas encore cette ouverture-là. Elle, le Campion, c'est... Quelle est la Palme d'Or ? C'est logique.
Mais voilà, bah, il a tout dit, Joachim Lafosse. Il a tout dit, on peut s'arrêter.
Non, on va parler de la musique du film quand même. Mais je me disais en l'écoutant que je vous verrais bien incarner Joyce McDougall. C'est un personnage intéressant.
Oui, il faudrait que je m'y intéresse de plus près. Je m'y suis intéressée de loin, mais il faudrait que je m'y intéresse de plus près. En écoutant Joachim, je me disais plusieurs choses. D'abord, redire à quel point Harvey Keitel est aussi génial.
Donc, extraordinaire.
On n'a pas dit depuis le début, mais ouais. Il est extraordinaire. Il est absolument génial. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est cette fausse piste sur laquelle elle nous entraîne sur le mutisme. Ah voilà, oui. On a trouvé le mot, le mutisme. Le fait de ne pas parler, c'est le mutisme. Voilà, on a enfin trouvé. Sur le mutisme de Holly Hunter, de Ada, parce qu'il y a l'explication que donne la petite fille, qui est très belle aussi, qui dit que, en fait, son mari et elle ont été frappés par la foudre, que son mari est mort, et qu'à la suite de ça, donc elle a perdu la voix. Donc elle introduit l'idée d'une souffrance intolérable, d'un traumatisme, et qu'elle était chanteuse d'opéra avant. On regarde, alors même si après on accepte l'idée, bon, qu'elle a aussi décidé d'arrêter de parler, elle nous entraîne aussi vers une piste plus sauvage, plus primitive, plus douloureuse aussi. Oui. Et puis c'est ce que raconte le film. C'est comment ce que décrit aussi Joachim, la fosse, le désir, la passion, le sentiment amoureux nous emmène vers des contrées, il y a quelque chose de primitif, de sauvage, ouais. Qui est tellement métaphorisé par le paysage, le lieu dans lequel se passe toute l'histoire, et l'absence totale de psychologie, d'explication. Ça, c'est vraiment extraordinaire dans le film. Vraiment génial.
Évidemment, ce qui aide beaucoup tout cela, c'est la musique. Une musique que Jane Campion voulait absolument avoir avant de commencer le tournage.
Quand j'ai demandé à Michael Nyman de composer la musique de mon film La leçon de piano, je lui ai demandé de sortir un peu de ce qu'il faisait pour le réalisateur britannique Peter Greenaway, dont il était devenu un peu le compositeur attitré. Il m'a répondu « Mais c'est moi, c'est ma musique ». Alors je lui ai demandé « Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire autre chose, trouver un autre moi ?»
«
Oh, c'était très différent, la leçon de piano. Parce que, en fait, il nous fallait la musique avant le film. Car le personnage principal est une musicienne. Et le piano tient également un rôle central. Du coup, il était tout à fait logique et même organique que ce que Ida joue au piano devienne le thème principal du film. Donc la musique devait être écrite avant même de tourner le film.
Alors, il se trouve que c'est Holly Hunter qui joue la plupart du temps au piano dans le film.
Ça se voit,
hein, c'est magnifique.
Ben, bien sûr, il n'y a pas de plan de coupe. On voit tout de suite que c'est elle qui joue, bien sûr.
Et j'ai écouté une archive où Michael Nyman expliquait qu'il a adapté son morceau à la façon dont elle jouait et au morceau qu'elle aimait jouer, pour qu'elle sache le jouer. Parce que c'est vrai qu'on est très loin des musiques habituelles de Michael Nyman. C'est beaucoup plus romantique que ce qu'il fait d'habitude.
Oui, absolument. Mais c'est magnifique.
Vous jouez toujours du piano ?
Non, je devrais. J'ai des pianos, mais non. J'ai travaillé beaucoup pour la pianiste.
Oui.
Alors, c'est pas moi qui joue, mais c'est quand même moi qui joue. C'est pas mon son, mais c'est moi qui joue.
Et c'est vos mains. Ce sont vos mains.
C'est vos mains. Ouais. Oui,
c'est les morceaux que vous avez appris.
Oui. Oui, c'est les morceaux que j'ai travaillés. Enfin, Benoît Magimel a encore plus de mérite que moi parce qu'il n'avait jamais fait de piano. Il a appris aussi. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de piano quand j'étais petite, mais j'ai arrêté après. Mais j'ai recommencé pour la pianiste, oui.
Alors Isabelle, je ne sais pas si vous savez, tous les jours dans l'émission, nous avons ce qu'on appelle l'instant Godard, puisque j'ai fait une longue interview de Jean-Luc Godard que nous passerons le jour de la dernière, le 13 août. Mais d'ici là, tous les jours, je lui pose une question à laquelle il répond.
Je veux dire, je suis bien gentil de répondre à ces questions.
Et donc aujourd'hui, ma question à Jean-Luc Godard, est-ce que vous aimez la leçon de piano ?
Non, j'aimais mieux le film d'avant.
Sweetie.
C'est le seul bon film qu'elle ait fait.
Sévère, ouais. Jean-Luc Godard.
Oui, c'est un sujet que je développerai pendant le questionnaire. C'est comment on réagit à un film que tout le monde aime et qui vous laisse de marbre. Oui, c'est sévère. En même temps, ça ne m'étonne pas de Jean-Luc Godard. Et par ailleurs, c'est vrai que Sweetie est un film génial. Et que, encore une fois, Jane Campion, avec la son piano, elle arrivait précédée de Un ange à ma table et de Sweetie, qui étaient deux films qui étaient extraordinaires et qui avaient beaucoup, beaucoup frappé les imaginations et les spectateurs quand ils étaient sortis. Enfin, moi en particulier, je me souviens très très bien quand j'ai vu les deux films, où elle présentait des héroïnes qu'on n'avait tellement pas l'habitude de voir au cinéma, tant sur le plan physique que mental. C'était vraiment... on n'avait pas vu ça souvent avant. Absence totale de séduction apparente, que sur le mal-être, la maladie, la difficulté à s'exprimer, c'était vraiment incroyable.
Et dans les films qu'elle a fait depuis, est-ce qu'il y en a un que vous aimez plus particulièrement ?
J'aime bien In the Cut, je suis d'accord avec Joachim Lafosse, j'avais beaucoup aimé In the Cut, et le film avec Nicole Kidman aussi.
Portrait
of a Lady, oui, j'avais trouvé ça très très magnifique, magnifique. Un peu, oui, on en avait moins parlé, mais c'était des films très très beaux.
De passer au questionnaire.
Voilà.
Alors, quelle est la première séance de cinéma dont vous vous souveniez ?
Alors, c'est un film avec Darry Cole qui s'appelait Les Livreurs.
C'est quoi
ça ? Très souvent, j'ai vérifié, parce que je crois que c'est le premier film que j'ai vu.
Ouais.
Alors, j'ai souvent deux réponses à vos questions.
Oui, c'est bien.
Alors, commençons par celui-là. Je suis presque sûre que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma.
Ouais.
Et j'ai toujours un doute parce qu'on me répond toujours, mais non, c'est pas Le Livreur, c'est Le Triporteur. Parce que un film très connu avec Darry Cole, c'était Le Triporteur.
Ouais.
Donc, je suis allée vérifier sur la filmographie de Darry Cole. Il y a bien un film de Jean Giraud, je crois, avec Darry Cole, qui s'appelle Les Livreurs, et je crois que c'est le premier film que j'ai vu.
En tout cas, c'est le premier acteur que vous ayez vu, Darry Cole,
je crois, mais alors il y en a un autre qui est à l'autre bout de la chaîne, c'est Yo-Yo de Pierre Etex.
Pas mal aussi.
que j'ai adoré et que j'ai revu récemment. Et c'était vraiment génial, Pierre et Tex. Et j'étais vraiment petite quand j'avais vu ce film. Et cette scène où Pierre et Tex promène son chien alors qu'il monte lui-même dans la voiture, et comme il est trop paresseux pour le promener, ben il tient le chien en laisse par la voiture. Ça me faisait hurler de rire, et ça me fait toujours rire, mais c'est évidemment plus rare que ça fasse rire un enfant, quoi. Mais moi, ça me faisait beaucoup rire.
La dernière séance, qui vous est marquée?
C'est le film de Sidney Lumet, À bout de course.
Ah oui.
C'est un des derniers films que j'ai vu récemment.
C'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Philippe Leguet.
Ah oui,
ouais.
Ah,
c'est drôle. Il disait oui, j'aurais pu le mettre comme la pépite que personne ne connaît, mais maintenant tout le monde le connaît.
Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui le connaissent. Il y a notamment Christine Lattie, qui est absolument géniale, qui est une actrice qu'on a un petit peu oubliée, qui était absolument formidable. Et le film est génial. Et voilà, c'est le dernier film. C'est un des derniers films que j'ai vu. Ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée au cinéma.
Votre film de chevet?
Le Troisième Homme.
Ah! Celui-là aussi, nous en avons parlé cette semaine.
Ah ben,
c'est
décidément
également mon film de chevet.
C'est vrai?
Ah oui.
Oui, parce que c'est un film que j'ai vu énormément de fois, que je connais pas par cœur, mais Alida Valli dans le cimetière, Orson Welles dans les égouts. Enfin voilà, donc c'est quand même un film qui est très présent dans mon esprit.
Moi, c'est le film qui a défini mon idéal masculin avec Orson Welles, définitivement.
Oui. Ah, mais Joseph Cotten est pas mal non plus.
Certes. Voilà. Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
In the Mood for Love.
Ah oui, pas mal.
Pour la musique, les robes, la douceur, voilà.
Le classique qui vous laisse de marbre?
J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. J'arrive pas à trouver. Et en ce moment, je lis un livre assez amusant à lire, que le journal de Roland Jacquard. Mm-hmm. Et c'est très amusant parce que Roland Jacquard, il ponctue ses interventions très régulièrement de films classiques, connus, et un peu comme Jean-Luc Godard, qui revisite toujours un peu à la négative, enfin un peu critique, en disant bah oui. Et je trouve ça, et bon, je pourrais pas le faire aussi bien. Et j'arrive pas à trouver, le classique qui me laisse de marbre, j'arrive pas.
La pépite que personne ne connaît.
Alors, pour compenser mon absence de réponse précédemment, j'en ai trois. J'arrive pas à me décider. C'est un de mes défauts. Souvent, j'arrive pas à me décider. Le premier, il y en a alors, d'abord, la pépite que personne connaît, j'ai eu du mal parce que les pépites, il y a toujours des gens qui les connaissent quand même. La pépite complètement inconnue, c'est un peu plus difficile, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, il y en a un, c'est Baptême de René Ferret, dont je ne peux pas dire qu'il soit totalement inconnu, mais c'est un film absolument génial, bouleversant.
Sublime,
Alors, évidemment, René Ferret, il est plus connu pour La Communion solennelle, mais c'est extraordinaire, Baptême. C'est une saga sur plusieurs générations. C'est magnifique. Mmh. C'est vraiment un film. Le deuxième, c'est là aussi un film qui est connu, il a quand même eu la Palme d'Or en 1959 et il a inspiré Claude Lelouch pour ses mouvements de caméra. Mais disons que c'est une pépite pour moi, c'est Quand passent les cigognes. Et c'est peut-être le film qui m'a donné envie d'être actrice. Voilà.
Ah oui?
C'est un des tout premiers films que j'ai vus. Et j'étais très très jeune. Mais c'est un film, à la fin, quand Tatiana Samoïlovna s'avance sur le quai, habillée dans son tailleur blanc, et qu'elle va chercher son fiancé, et qu'au fur et à mesure qu'elle remonte le train, elle comprend qu'elle ne le reverra plus, et elle commence à pleurer, et puis au même moment, elle croise un très très vieux monsieur qui lui dit, rien qu'en vous le racontant, j'en ai encore les larmes aux yeux, c'est absolument incroyable. Elle croise un très vieux monsieur qui comprend sa douleur, et qui lui dit, il faut vivre mon petit, il faut vivre. Et puis à ce moment-là, il y a un sourire qui éclaire son visage et elle est entre rire et larmes. Et c'est un plan qui m'a toujours frappé. C'est un film dont je me souviens très très bien et que j'ai vu il y a très très longtemps. Et dans le film, il l'appelle Mon écureuil, le jeune homme.
C'est beau.
Qu'elle ne reverra pas. Voilà. Et la troisième pépite, c'est un film de Charles Maton, que j'adore, qui s'appelle. Mais je vais écorcher le titre, alors il faudrait que vous. Les étoiles mortes.
Ouais.
C'est un très très beau film de Charles Maton. Magnifique.
Ah bah, vous voyez, celui-là, je ne le connais pas.
Ben oui, ben alors voilà, à découvrir. Le titre est incomplet malheureusement, mais il y a Étoile morte dedans.
On va vérifier.
Voilà, avec Caroline Thiol.
Alors, votre voix de cinéma préférée?
Robert Mitchum.
Ah oui.
Et en plus, j'ai tourné avec lui, donc c'est une voix que j'ai connue aussi de près, pas qu'au cinéma. Parce que j'ai fait un film oublié et oubliable, mais d'un cinéaste qui l'est moins. enfin, ni oublié ni oubliable, qui est Otto Preminger, qui s'appelait Rosebud, et c'est Robert Mitchum qui a d'abord tourné et puis après qui s'est disputé avec Otto Preminger, et donc il a tourné un mois puis après il est reparti.
Mais il a mauvaise réputation, Otto Preminger, quand même, faut bien le dire.
Humainement. Oui, mais ben non, ça allait. Moi, je m'entendais assez bien avec lui. Mais Robert Mitchum était quand même très très difficile. Il avait en fait pas du tout envie de tourner ce film. Il me disait tout le temps que lui, ce qui l'intéressait, c'était ses chevaux et la poésie, me disait-il. Ah. Et la poésie et ses chevaux. Donc en fait, il avait déjà lâché l'affaire depuis un certain temps. Il avait plus trop envie de tourner, je crois. Puis je pense qu'il avait un peu compris le film dans lequel nous nous aventurions. Mais enfin, il avait une très belle voix.
Votre salle de cinéma préférée ?
Bah, la réponse, j'en ai forcément deux. C'est le Christine Cinema Club et l'École Cinema Club, programmée par mon fils, Lorenzo Chama, et dirigée par son père, Ronald Chama. Deux très belles salles. Oui. Et j'ai notamment vu À bout de course, au Christine Cinema Club.
Très belle programmation, Christine, voilà. Toujours.
Voilà.
Votre prochaine séance ?
Alors, j'ai l'embarras du choix, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Ça sera Annette, que j'ai très envie de voir, et ça sera Onada.
Vous avez raison dans les deux cas, deux films à voir.
Voilà, de Arthur Harari.
Isabelle, quel est votre vœu cinéphile ?
Mon vœu cinéphile, c'est que l'amour du cinéma perdure, persiste. Cinéphile, c'est ça que ça veut dire, c'est l'amour du cinéma, qu'on continue à aller dans les salles, qu'on continue à faire des films de cinéma, des vrais films de cinéma, qu'on continue à aller dans les salles coûte que coûte, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ce qui se passe encore, mais les difficultés à y accéder, c'est ça qu'il faut encourager le plus possible, surtout en ce moment.
Viva le cinéma. Merci Isabelle Huppert.
Viva le cinéma.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Merci Isabelle Huppert d'être venue dans ce studio nous parler de la leçon de piano et sur les quelques notes de Michael Nyman qu'on aime tant, vous annoncer que demain ce sera Bruno Podalydès qui viendra nous parler d'un mastodonte, Titanic. Voilà un film qui a changé nos regards. L'émission d'aujourd'hui était comme tous les jours réalisée par Doria Zénine, préparée par Meryl Monoghetti et Lila Bozos, et à la technique c'était Florent Bujon. Je vous dis à demain.